Ce balado vous est offert par le gouvernement du Québec.
Bienvenue dans cette deuxième saison des balados juridiques. Je m'appelle Vanessa Destinée et je vais à la rencontre d'hommes et de femmes qui nous partagent avec beaucoup de générosité leur histoire et leur cheminement après leur divorce et leur séparation. D'entrée de jeu, ce qui m'a fascinée, c'est que tous ont dit qu'il y a une vie après une telle épreuve et qu'elle est belle. Notre but avec ce balado, c'est de vous partager leur histoire, vous inspirer et vous aider sans lunettes roses. On martèle souvent qu'un couple sur deux se sépare ou divorce, ce qui peut sembler catastrophique. Même si les personnes à qui j'ai parlé au cours de ces balados ont à première vue un sentiment d'échec, avec le recul, elles sont assez unanimes. En réalité, il s'agit souvent d'une étape dans leur vie vers quelque chose de meilleur. Une séparation ou un divorce, c'est un grand bouleversement qui peut faire l'effet d'une bombe, qui peut nous amener à opérer des changements dans notre vie. On se questionne, on avance à tâtons, on apprend à mieux se connaître et parfois, on se permet même de sortir de notre zone de confort. Dans cet épisode, je prends le temps avec Alexandra et Joël de regarder le chemin parcouru depuis leur rupture. Elles rouvrent pour vous un chapitre de leur vie pour vous inspirer et pour vous aider à cheminer à votre tour afin d'écrire le prochain chapitre de votre vie. Salut Alexandra!
Allô!
Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui d'un parcours super intéressant. Bien, c'est ton parcours et je suis très contente de le faire découvrir à nos auditeurs. Tu es une maman solo d'un grand garçon aujourd'hui âgé de 11 ans. Et après la séparation avec le père de ton fils, il y a à peu près 10 ans de ça, tu as eu quelques relations, mais c'est vraiment la dernière qui a été la plus difficile, mais étrangement, la plus salvatrice. Donc, tout ça, c'est très, très paradoxal. Dis-moi, Alexandra, en quoi ta dernière relation a été un élément déclencheur pour ce qu'on pourrait appeler ta reconstruction?
En fait, j'ai réalisé mon pattern qui vient de la petite enfance, là, probablement. Moi, j'ai deux parents handicapés auditifs et j'ai toujours été un peu au service comme une aidante naturelle. Donc, quand j'entrais en relation intime, on dirait que tout de suite, je voulais savoir comment je pouvais être utile. Je me demandais comment je pouvais faire mieux tout le temps pour que l'autre m'aime, au lieu de juste laisser la relation aller puis apprendre à se connaître puis s'aimer là-dedans. Donc, la dernière, ça a été comme un tremplin pour vraiment prendre conscience de ce pattern-là. Puis, j'ai fait une démarche, j'ai fait du travail sur moi. J'ai pas eu le choix de me regarder et de voir ma responsabilité dans cette dynamique-là.
C'est intéressant comment t'en parles parce que, tu sais, on comprend que tu as fait énormément d'introspection, que tu as pu identifier certains comportements chez toi, mais que tu es quand même consciente aussi que tu avais une part de vulnérabilité qui a été forcément exploitée aussi par tes partenaires.
J'ai besoin de comprendre parce que ça fait mal, c'est dur, mais en même temps, c'est comme si c'est la seule manière pour moi de reprendre mon pouvoir personnel. Donc, c'est sûr que ça m'a fait grandir après avoir eu mal, mais c'est comme s'il faut passer à travers pour grandir.
La dernière séparation, ça a vraiment été comme une espèce d'élément déclencheur. Dis-moi ce qui s'est passé après cette séparation-là.
Je me suis dit, là, c'est pas vrai que je me réembarque dans une relation sans avoir un meilleur niveau bien-être là, dans ma vie puis dans ma tête. Je veux me sentir prête. Tu sais, c'est comme m'engager dans un projet de vie avec quelqu'un. Puis j'ai décidé de vraiment prendre le temps de prendre du recul sur ce que je veux faire professionnellement, puis ne pas focusser du tout sur rencontrer quelqu'un.
Tu as quitté ton environnement, puis tu as vécu des choses aussi. Là. Non seulement tu as déménagé, tu as changé de pays. Donc, moi, je suis très curieuse. Tu as comme un petit côté aventurier. Tu as été au Mexique, au Nicaragua, au Guatemala, si je ne me trompe
pas. Puis Costa Rica, oui. J'étais partie 3 mois avec mon enfant. J'ai essayé de faire un voyage pack-sac avec mon enfant, mais ça a été vraiment difficile. Il n'a pas trop aimé. Puis, quand je suis revenue, on dirait que ça m'a aidé à me dégager de plus en plus de mon environnement que je trouvais devenait de moins en moins approprié à ce que je cherchais. Puis, j'ai décidé de changer de région. En fait, je suis partie de Montréal vers Sherbrooke pour développer mon entreprise puis pour amener plus de nature dans ma vie puis dans celle de mon enfant.
À cet âge-là, c'est un peu ingrat. Là. Moi aussi, j'ai des amis là, qui font le tour du monde avec leurs enfants puis ils réalisent pas la chance qu'ils ont, les petits maudits. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a apporté?
Dans le fond, ce que ça m'a apporté, c'est de la perspective, surtout. Chaque fois que j'allais pas bien dans ma vie, à partir de 18 ans, je partais en voyage. Ça a été de la fuite, mais en même temps, une fuite saine. Puis, justement, quand mon médecin me dit, là, il faudrait que je te donne des antidépresseurs. Puis là, j'ai dit, non. À la place, je pars en voyage. Puis là, elle me disait que c'est ce qu'elle conseillerait à beaucoup des patients, finalement.
Oui, mais on n'a pas toujours les moyens.
J'avais pas tant les moyens non plus, mais en tout cas, finalement, je l'ai fait pareil. Mon fils commençait à avoir des tics nerveux à l'école. Aussi, dans la classe, il commençait à s'isoler. Il y avait comme un comportement qui m'inquiétait. Puis, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je sois proche de lui pendant un certain temps, qu'on soit juste nous deux, puis que je le comprenne mieux, que je sois vraiment là pour lui en dehors des difficultés que je vivais au Québec. Donc, ça a été comme une solution quand même gagnante, même si lui, dans mon souvenir, il parlait souvent de retourner voir le Québec. Puis, tu sais, en fin de compte, aujourd'hui, il a comme envie de voyager. T'sais, ça lui a donné un peu la piqûre inconsciemment. Ouais. Puis, il va voir aussi d'autres enfants qui vivent autre chose, une autre réalité. T'sais, il a commencé à plus s'ouvrir.
Sur le coup, de voir que lui, il tripait pas pendant que toi, tu essayais de te reconstruire. Ça a dû être dur quand même. Mm-hmm. Ça a-tu un peu alourdi le processus, justement, de reconstruction? Ben oui, c'est ça.
Au-delà de tout ça, aujourd'hui, tu sais, je suis contente, mais je l'aurais peut-être fait différemment, là, tu sais. Parce que là, je voyais que lui, il n'avait pas choisi ça avec moi, là. Je l'ai juste amené avec moi, puis il m'a suivi. Mais c'est sûr que ça doit être formateur à quelque part, mais oui, c'était difficile, puis... J'avais du mal moi-même à me réconforter, fait que c'était dur de le réconforter là-dedans. Mais au bout du compte, on est allé à des bons endroits.
Parle-moi un peu de l'impact de ce voyage-là sur tes finances, parce que ça a été quand même un peu lourd de conséquences.
Tu sais, des fois, le spontané, c'est bien, mais après ça, je me suis ramassée avec une grosse dette qui s'est accumulée avec le temps, jusqu'à faire faillite.
Une faillite, c'est sûr que... Pour beaucoup de gens, c'est très, très dramatique, puis c'est même un tabou, en fait, en société. Mm-hmm. Mais je veux dire, c'est l'idée derrière, c'est de donner une deuxième chance aussi. Donc, aujourd'hui, est-ce que ça va un peu mieux?
Oui, bien, en fait, j'ai plus ces montants-là à chaque mois en souffrance. C'est comme ce que tu fuis te poursuit, là, puis que ça devient de plus en plus gros. Mm-hmm. C'est comme si j'avais toujours un poids, un boulet, puis que je me disais, je pourrais jamais rentrer en relation de couple avec quelqu'un parce que le dernier me faisait refléter que j'étais super irresponsable d'avoir fait ce voyage-là avec un endettement d'études. Puis tout ce que j'ai eu comme ressenti à la fin, ce qui restait avec moi, c'est comme... Cette dette-là, on dirait qu'il me pesait sur la tête. Je pense que ça s'enligne vers du mieux, juste du mieux. J'ai eu des rencontres avec des conseillers. Là, j'ai un petit coin où est-ce que j'économise pour mon auto, donc pour les imprévus. Tranquillement, ça se place.
Et c'est possible après, tu sais, de rebondir, de retomber sur ses pieds, puis tu en es un très bon exemple. Donc, je trouve ça le fun pour les gens qui nous écoutent, là, tu sais, fait que bravo
oui,
à toi.
Oui, il y a espoir.
Voilà, vous l'aurez entendu ici, mesdames et messieurs. Mais plus sérieusement, par rapport à tout ton processus de reconstruction, tu sais, on a parlé à des experts durant notre première saison qui disaient, entre autres, que bon, ça peut prendre jusqu'à 2 ans pour se reconstruire, tu sais. Toi, est-ce que tu dirais que c'est à peu près ça?
Oui, un bon deux ans. J'avais besoin, tu sais, de plus d'espace mental pour moi, pour savoir vraiment c'est quoi qui m'appartient, c'est quoi que vraiment j'ai envie.
Mmh. C'est ce que tu appelles un peu l'autonomie émotionnelle, si je me trompe pas. Mmh. Ouais, je trouve ça intéressant comme concept. Comment tu décris ça, mettons, là, pour quelqu'un? C'est la première fois que j'entendais ça, tu sais.
L'autonomie émotionnelle, c'est de comme reconnaître quelle émotion que je vis en ce moment. Tu sais, ça se ramène à la communication non-violente qu'on entend de plus en plus parler. C'est quoi mon émotion? T'sais, quelle réaction que j'ai? Qu'est-ce que je viens de dire ou comment je viens de réagir avec cette personne-là? Puis après, c'est vraiment de se ramener à soi, de se reconnecter, d'aller comprendre c'est quoi mon besoin, c'est quoi mes valeurs. Puis après ça, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ça, dans le fond, de l'autonomie émotionnelle, où c'est d'aller regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe, puis de prendre des actions pour ça.
De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui, mettons?
J'ai l'impression d'avoir vraiment grandi intérieurement. T'sais, la petite fille en moi qui avait besoin d'être prise par la main puis d'avancer vers ses rêves. Je dis pas que là, je suis comme pleinement accomplie, mais je suis en chemin de, puis je suis en train de le faire.
Est-ce que ta vision par rapport à la séparation, ça a changé? T'sais, parce qu'au début, c'était difficile, tu prenais ça comme des échecs. T'sais, est-ce que tu sais, maintenant, tu es comme, OK, mais il y a quelque chose de nice, tu sais, de très positif qui peut naître de ça, de ce processus-là aussi. C'est possible de réussir une séparation puis, tu sais, de grandir à travers ça?
Mm-hmm. J'aime la question. Ça vient comme chercher quelque chose. C'est comme une mort à soi, finalement, tu sais, pour se permettre une renaissance. Chaque séparation, c'est un deuil, mais c'est aussi une opportunité d'apprendre quelque chose. Ça sonne vraiment, tu sais, psychopop, là, mais c'est vrai, tu sais, si je suis pas en train d'apprendre quelque chose de cette mort-là, ce deuil-là que je suis en train de faire, il y a vraiment un deuil à faire pour être mieux dans une autre relation, finalement, ou une meilleure relation avec moi-même, ça sert à quoi, tu sais, d'avoir vécu ça, finalement? Chaque expérience amène un apprentissage.
Chaque expérience, c'est un tremplin, d'une
c'est
certaine
ça,
façon.
Oui. Puis plus ça fait mal, malheureusement, on dirait que c'est là qu'on a les plus grandes transformations, où est-ce qu'on se dit, là, vraiment, je veux pas revivre ça.
Puis à travers ça, une des personnes les plus importantes dans ta vie, ça reste quand même ton enfant. Ouais. Comment est-ce que votre relation, elle a évolué depuis cette séparation-là, qui a été difficile, de ce que je comprends, pour lui aussi, parce qu'il a vécu des choses durant cette relation-là, même si elle a été brève. Donc, comment est-ce qu'elle se porte, votre relation aujourd'hui, à toi et ton fils?
Je pense que mon fils, il comprend que c'est quoi un être humain imparfait, là, tu sais, puis qu'il se met moins de pression, en fait. C'est cette capacité-là, je pense, d'introspection qui nous a le plus aidés, parce qu'à travers cette souffrance-là, si on continuait sans aller chercher les outils, les ressources que, mettons, moi, j'ai acquis, puis que lui aussi a acquis, hein, dans le suivi qu'il a eu avec psychoéducatrice, travailleur social, apprendre à reconnaître ses émotions, mais tu sais, c'est d'apprendre à communiquer, c'est d'apprendre à se parler. Communiquer, là, avec ses enfants, c'est tellement important. Puis de les écouter. Puis moi, j'apprends. Des fois, j'écoute pas. Je sais, j'écoute pas, mais là, je m'en rends compte. Des fois, quand je vais me coucher dans le lit, puis OK, j'ai pas écouté. Puis je fais des retours avec lui. Puis tu sais, je le vois que on dirait que ça l'apaise. T'sais. Fait qu'il y a comme une meilleure qualité de communication avec lui, puis d'humanité aussi, de comme... Lui est imparfait, moi, je suis imparfaite. Puis on s'aime quand même. Il y a un amour inconditionnel qui naît de tout ça. On se choisit à tous les jours, finalement. Il faut quand même se choisir comme parent puis enfant.
C'est quand même un parcours difficile, ce que tu décris. Je pense que tu t'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile, cette reconstruction-là.
Ah, ben là, je le fais en toute lucidité, là. Il y a une période de ma vie, tu sais, que je consommais plus d'alcool. Tu sais, là, je le fais en toute lucidité, puis des fois, ouch, tu sais, ça fait mal. Mais je ferais plus autrement, tu sais. Puis, c'est comme il me reste, je sais pas combien d'années à vivre, mais on dirait que à chaque jour, tu sais, c'est comme une opportunité d'aller de l'avant vers quelque chose que j'ai envie, tu sais.
Je te trouve très courageuse, tu sais, je t'écoute, là, puis je trouve que tu as de quoi être fière quand même, là.
Merci.
Tu l'es-tu? Tu l'es-tu un
ben,
peu?
Là, on dirait que ça me reflète que oui, là, tu sais, c'est le fun. J'ai fait du parcours. Fait que merci. Je suis contente d'avoir cette opportunité-là aussi. J'espère que... Ben pas j'espère, je crois que ça peut inspirer des gens. Puis je suis contente d'avoir eu ce moment avec toi.
Je vous le dis, moi, elle m'a inspirée. Un voyage hors de nos frontières et un voyage intérieur pour se reconstruire. En écoutant Alexandra, je réalise à quel point la vie est un voyage sans fin, un long voyage dont on ne connaît pas le chemin, mais qui assurément nous fait grandir. Et Joël, ma deuxième invitée, pourrait en dire tout autant. Bonjour, Joël.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Écoute, Joël, toi, tu as rencontré ton mari dans les années 90. Rapidement, vous avez emménagé ensemble. Vous vous êtes mariés. Vous avez eu deux enfants. Et au fil des ans, tu t'es comme perdue. Puis c'est seulement après 20 ans de mariage que tu as su trouver le courage de t'écouter pour te retrouver. Et c'était une union que j'imagine qui était heureuse. Tu sais, il y a personne qui remet ça en question. Vous avez eu de très, très beaux moments ensemble. Mais ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a fait envisager une séparation?
Quand on s'est rencontrés, on avait déjà un âge où tous les deux, on avait hâte d'avoir une famille. Je crois qu'on a sauté l'étape de « est-ce qu'on est vraiment compatible amoureusement? » Puis avec les années, je pense que c'est ça, ça fait que c'était une relation d'amitié. Puis quand j'ai commencé à être moins bien dans la relation, c'est que là, je me sentais plus comme si on était colocataire, coparent. ça manquait le sentiment amoureux, l'intimité de la relation. J'étais vraiment en manque de ça. Je me reconnaissais seulement dans mon rôle de mère et puis j'avais vraiment, la femme en moi était complètement éteinte. Et j'avais vraiment besoin de me retrouver à ce niveau-là.
C'est combien de temps après le mariage que ce sentiment-là d'incompatibilité a commencé à se faire sentir?
Je dirais une dizaine d'années. Puis après ça, ça m'a pris une dizaine d'années à pouvoir assumer une décision qui était latente, mais que tant que je me sentais pas prête à l'assumer, j'ai continué plutôt dans la relation colocataire.
Puis comment tu te sentais durant cette période? Donc, tu parles de cette femme en toi qui était carrément éteinte. Donc, ça devait être lourd à porter au quotidien. Ça devait avoir un impact sur ton humeur, sur ton bien-être.
Durant cette période-là, je me suis rendu compte que j'étais plus moi-même. J'étais moins patiente. J'étais plus intransigeante avec lui. Puis ça me faisait me sentir vraiment pas bien parce que je trouvais quelque part qu'il méritait pas ça.
Est-ce que tu penses que cette impatience-là, ce sentiment-là de mal-être, c'était perceptible par les gens autour de toi?
Je crois que mon entourage sentait mon malaise parce que j'étais rendue à un point où est-ce que j'avais la difficulté à inviter des gens, notre cercle d'amis. J'étais plus à l'aise parce que j'avais l'impression de jouer un rôle, qu'on jouait le rôle du couple qui fonctionnait bien. Alors que pour moi, c'était pas ça. Donc, je commençais à me couper de mon entourage.
Mais pourquoi tu voulais pas montrer ce que tu vivais?
J'avais de la difficulté, je pense, à le montrer parce que le montrer, c'était comme l'annoncer, puis j'étais pas prête à l'assumer. J'étais vraiment pas prête à prendre la décision de quitter pour tout ce que ça allait impliquer. Donc, j'aimais mieux pas trop gratter, puis rester dans la surface, puis dans la routine. La routine me sécurisait quelque part, m'évitait de penser trop à ce que je voulais puis ce qui me manquait.
Qu'est-ce que ça aurait impliqué une séparation? Qu'est-ce qui te faisait peur?
J'avais peur de faire éclater la famille. Parce que si je prenais la décision, il fallait que je l'assume, c'était moi qui étais responsable de la prendre. Donc, je ne savais pas ce qui allait m'attendre puis ce qui allait advenir de moi à ce moment-là.
Tu as eu plusieurs épisodes de séparation avant que ce soit définitif. Tu as fait combien de tentatives de séparation? Parce que dans le fond, tu te séparais, tu revenais. Qu'est-ce qui s'est passé?
À un moment donné, j'en suis venue à prendre une décision. J'ai pris un appartement. Puis une fois rendu dans l'appartement, une fois qu'il a été aménagé, j'ai complètement paniqué. Je me voyais pas rester là parce qu'il faut penser que quand on prend cette décision-là, ben c'est souvent à nous de quitter parce que c'est nous autres qui avons pris la décision. Donc c'est à nous de vivre avec tout un nouvel environnement. Puis je suis déjà quelqu'un qui a de la difficulté à vivre les changements. Donc là, j'avais plus aucun repère. Donc j'étais en appartement avec des meubles neufs parce que j'avais voulu lui laisser pour que lui, on ne vide pas la maison, pour que les enfants soient dans leur environnement familier. J'avais déjà des craintes à mes enfants seulement une fois ou deux semaines, là, avoir une garde partagée, mais on dirait que là, j'ai réalisé encore plus, puis j'ai complètement paniqué, puis j'ai voulu revenir, et je suis revenue à ce moment-là. Puis par la suite, dans les années qui ont suivi, ben moi, je lui ai demandé de faire de la thérapie, mais ça a été long avant qu'il soit prêt à le faire. Deux autres fois, lui annoncer à lui que je voulais partir, mais là, pas aux enfants, parce que là, cette fois-là, je voulais être sûre d'être capable de faire, de prendre la décision. Puis c'est allé jusqu'à temps que mes propres enfants me disent, « Maman, on sait que t'es malheureuse, puis tu restes juste pour nous, on le sait. Donc là, maintenant, prends-la la décision, puis t'as le droit d'être heureuse. »
Aïe, aïe, ça doit faire mal quand même à recevoir parce qu'on essaye de sauver les apparences, de travailler fort, de piler sur beaucoup de tes propres émotions pour donner une apparence de bonheur, tu sais, puis de famille soudée. Puis tes enfants, ils ont réussi à voir à travers les cracks, là. Donc, comment tu l'as reçu? Est-ce que c'était libérateur pour toi ou au contraire, ça a accentué ton sentiment de culpabilité?
Quand mes enfants m'ont dit ça, ça a été libérateur, mais en même temps, ça le fait mal. J'ai fait beaucoup de thérapie. Puis elle me disait, faut pas penser que les enfants ne voient pas clair dans ça.
La thérapeute te disait ça?
Oui, la thérapeute me disait, les enfants voient clair, ils voient que vous n'êtes pas un couple amoureux. Tu sais, c'était un couple où il y avait une très belle entente, il y avait du respect, là. Ça, il n'y avait aucun problème.
De l'amitié, comme tu le disais, tu sais.
Il y avait de l'amitié, mm-hmm. mais c'est ça, c'était pas amoureux. Puis elle disait, tes enfants le voient. Puis c'est pas un bon exemple à donner à des enfants que de voir des parents qui ne sont pas amoureux. C'est pas ça la vraie vie. Les parents, ils devraient être amoureux.
À partir de ce moment-là, quand la thérapeute te parle de cette image construite qui va peut-être être nocive pour tes enfants, finalement, est-ce que tu es prête à le recevoir ou tu es comme non, moi ça marche, là, ce que je suis en train de faire, ça fonctionne? Est-ce que tu écoutais ta thérapeute?
Ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que moi je pensais que pour les enfants, tant que les parents étaient ensemble, que c'était correct. Dans notre cas, il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas de ton qui montait, il n'y avait pas de manque de respect. Pour moi, les enfants, ils n'en souffraient pas du tout. Là. Sauf qu'il y avait vraiment l'image de parents qui n'étaient pas amoureux.
Je trouve ça super important ce que tu dis. Un couple qui s'effrite, c'est pas vrai que c'est toujours des scènes d'engueulade qui finissent plus. Ça peut des fois être très, très insidieux. Fait que c'est encore plus lourd à porter comme secret.
Je pense qu'à quelque part, je l'aimerai toujours parce que c'est le père de mes enfants. C'est une excellente personne. S'il a besoin de moi, je vais être là pour lui. Puis je pense que l'inverse est vrai aussi. Dans ce contexte-là, c'est difficile de prendre une décision parce qu'on se dit, ben, c'est quoi que je veux aller chercher de plus? Je suis avec une bonne personne, mais c'était le manque de sentiments amoureux et de le manque d'une femme épanouie. C'était vraiment ça que je me sentais pas épanouie.
Ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, Joëlle, c'est que tu as beaucoup de recul. Parle-moi de cette vie-là, de cette vie après la séparation. Qu'est-ce que ça t'a apporté?
La vie après la séparation m'a permis de me redécouvrir, mais en même temps, ça a été un très long processus parce que je vivais comme dans mon rôle de mère depuis plusieurs années. Donc là, la femme, ce qu'elle voulait, j'en avais aucune idée. Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que je voulais faire? Là, j'ai passé par toutes sortes d'idées, donc il faut que je me remette... des choses très simples, comme je vais me remettre au sport, je vais retourner faire des études, qu'est-ce que j'aimerais faire comme voyage, est-ce que je suis capable d'aller en voyage tout seul, parce que j'avais toujours voyagé avec mon ex-conjoint, puis avec les enfants. Donc, qu'est-ce que je veux faire, puis qu'est-ce que je peux faire tout seul, parce que j'avais longtemps été en couple, mais j'étais beaucoup reposée sur lui. Puis là, j'avais des décisions à prendre par moi-même, comme une grande fille, puis ça n'a pas été facile au départ. Je ne savais pas si je prenais les bonnes décisions, je ne savais pas trop ce que je m'en allais, mais j'ai fait des essais-erreurs, puis à un moment donné, ben, on se met sur le bon chemin, puis on apprend à se redécouvrir, puis on retrouve les joies de... J'ai trouvé des joies à faire des choses par moi-même, et de me dire à moi-même que j'étais de bonne compagnie.
Ça, c'est intéressant ce que tu dis, les essais-erreurs, parce que ça fait peur, en fait, à beaucoup de gens de faire des erreurs. Tu sais, on a tellement intériorisé le sentiment d'échec relatif à la séparation, au divorce, qu'on a l'impression qu'à partir de là, on n'a plus le droit à l'erreur. Toi, comment t'as géré ça?
Quand on recommence, puis qu'on se retrouve seul, effectivement, l'idée là, de faire des erreurs dans mes prochaines décisions, c'était un petit peu angoissant. Mais en même temps, ben, on réalise que c'est comme ça qu'on va se découvrir, puis c'est comme ça qu'on va grandir. Donc, petit à petit, on prend de l'assurance, puis on sait plus ce qu'on veut. Dans mon cas, c'était de commencer à être fière de moi, d'avoir pris la décision et d'avoir, une fois dans ma vie, m'avoir choisi, de m'avoir mis en priorité. Avec le temps, j'ai réalisé que même si j'ai pris cette décision-là pour me mettre en priorité, j'ai pas fait souffrir personne finalement. Parce que ça a été fait dans le respect. Nos enfants n'ont manqué de rien. Et on a même encore une excellente entente, moi avec mon ex-conjoint. Donc,
C'est tellement bien dit, en me choisissant moi-même, c'est pas vrai que j'ai fait souffrir d'autres personnes. T'sais. Puis ça, c'est important de le rappeler. Vraiment, Joëlle, merci pour ce témoignage et cette phrase-là en particulier qui, je pense, devrait être la phrase de la balado qu'on devrait retenir. Tu sais, dans le fond, ce que je constate dans ton témoignage jusqu'à présent, c'est le fait que de te choisir, de faire ces changements-là, ça a été des changements pour le mieux. Est-ce qu'il y a des choses dont tu te serais peut-être passée?
Après ma séparation, j'ai vécu une courte relation. Puis ça a été une relation malsaine. J'écoutais pas ma petite voix intérieure, les signaux d'alarme, parce que j'étais avide d'une relation qui me permettrait de retrouver la femme en moi, de me sentir belle et épanouie. Puis je n'ai pas tombé sur une bonne relation. Oui, la relation m'a apporté ça, mais en même temps m'a apporté d'autres choses de négatives qui a fait que à la fin de cette relation-là, je me faisais plus confiance en mon jugement. Je me disais, OK, là, tu as manqué de quelque chose pendant des années, mais là, fais attention là, à ce que tu recherches, puis à qui tu vas offrir d'être en couple avec toi.
Oui, avec qui tu vas partager ton intimité. Puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que, dans le fond, il y a deux choses que je vois ici. Tu as voulu faire confiance peut-être un peu trop rapidement, puis tu souffrais également d'un manque d'expérience. Je veux dire, tu t'es mariée, tu es en couple depuis l'âge de 28 ans à peu près. Pendant presque deux décennies, c'est beaucoup là, dans une vie, deux décennies. Là. Donc, ça laisse peu de chance à ces espèces d'expérimentations qu'on vit, tu sais, qu'on continue de vivre dans la trentaine, dépendamment. Tu sais. Fait que c'est normal, tu sais. Puis je trouve que c'est important qu'on le rappelle dans le cadre de la balado.
Oui, effectivement. Après une séparation, comme qui était dans mon cas, après une longue union, on manque d'expérience, puis on ne sait pas exactement ce que l'on veut. Je savais le besoin que j'avais à combler, mais ça a été fait d'une façon malsaine, ce qui a fait que j'ai sorti très écorchée de cette relation-là. Ça m'a apporté un manque de confiance parce que je questionnais mon jugement. Donc, après ça, j'ai été plus sur mes gardes et je me suis recentrée sur moi.
C'est quoi la différence entre la Joëlle d'avant la séparation et celle d'après?
C'est encore difficile des fois de déterminer ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus et je suis capable de mettre mes limites. J'avais vraiment la difficulté à mettre mes limites avant, puis maintenant, je vais les mettre et je vais insister pour qu'on les respecte. Ça, vraiment, j'ai vraiment changé là-dessus.
Donc, la Joëlle d'aujourd'hui, elle garde le cap. Est-ce que ton entourage a constaté cette différence-là?
Mon entourage, mes enfants, mes parents aussi ont constaté que j'ai changé, que je me prenais, que je m'assumais davantage. Déjà, d'avoir pris la décision de me séparer, c'était vraiment une manière de m'assumer. Mais dans les autres sphères de ma vie, là, c'était vraiment un problème que j'avais de prendre une décision et l'assumer par après. Avant, c'était prendre une décision, le regretter. J'aurais dû, j'aurais pas dû. Maintenant, c'est je m'assume. Je l'ai choisi, je l'ai décidé, je vais vivre avec. Puis je préfère maintenant regretter d'avoir prendre une décision que de pas la prendre.
Je suis curieuse qu'on revienne un peu sur les changements qu'ont occasionné ton divorce. Tu t'étais coupée de tes amis aussi durant cette période-là, durant la période en couple. Tu faisais moins d'activités. Donc, parle-moi de ta renaissance en tant que femme.
Quand j'ai vraiment décidé de me séparer, là, j'ai encore pris un appartement que j'ai choisi soigneusement. Là, puis c'était très important que je me sente chez moi dans cet appartement-là. Quand je me suis séparée, j'avais des amis qui étaient célibataires, donc je me suis mis à refaire des activités en groupe de filles, ce qui me faisait énormément de bien. Là.
Quelles activités, par curiosité?
Ben, je me suis inscrite dans un gym. J'avais un temps où j'aimais faire des cours de groupe sur la musique, etc. Et je me suis réinscrite, puis j'allais régulièrement avec une de mes amies. On sortait... On prenait un verre, on allait au cinéma, j'allais voir des spectacles. Puis pourtant, c'est pas des choses que je pouvais pas faire quand j'étais en couple. Personnellement, je suis plus une fille de couple. Mais il fallait que je passe par le bout d'être seule. Puis dans cette période-là, je me suis vraiment entourée, j'ai retrouvé mes amis de filles. Puis c'était important que je fasse des activités entre filles. Ça me fait vraiment du bien. C'est sûr que je voulais pas que je reste toute seule chez nous à trop réfléchir. Pas au début. Avant que je me sente bien. Après ça, là, j'étais bien dans mon environnement. Puis...
Mais ça, c'est normal. Je veux dire, tout le monde a besoin d'un temps où est-ce qu'on ne peut pas être seul dans un appartement. Ce qui me fascine dans ton parcours, c'est que tu es quelqu'un qui n'aime pas tellement le changement, mais tu as réussi quand même à surmonter toutes ces craintes, toutes ces appréhensions-là. Tu t'es trouvé un appartement toute seule, tu as voyagé seule, tu es allée justement t'inscrire dans des groupes, tu as rencontré de nouvelles personnes. Ton état d'esprit à ce moment-là, est-ce qu'il y avait un peu d'excitation quand même?
Il y avait comme un nouveau sentiment de liberté, même, c'est pas parce qu'on m'empêchait de faire des affaires là, quand j'étais en couple, c'est pas ça du tout. Mais c'est parce que quand ça fait longtemps que ça fonctionne pas avec quelqu'un, c'est difficile d'être en couple quand on se sent seul. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire quand on est en couple. Tu sais, ça se fait pas de ça. Alors, en tout cas, dans mon livre à moi, de sortir 4-5 fois par semaine avec tes amis de filles quand t'es en couple, c'est peut-être beaucoup. Fait que c'est ça que je trouvais difficile. Là, j'étais seule, je pouvais me permettre de faire des choses pour moi. C'était un sentiment de liberté que j'avais qui m'a fait du bien au début.
Donc, finalement, sortir de sa zone de confort, c'est une bonne chose.
Oui, sortir de sa zone de confort, c'est une bonne chose. Puis c'est, pour moi, quelque chose qui était difficile. Parce que la zone de confort, c'est ce que je vivais depuis plusieurs années. Puis si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé en thérapie. Parce qu'elle me disait, tu es prête, tu as tout ce qu'il faut pour prendre la décision de mettre fin à la relation. C'est seulement que tu as peur du futur parce que tu le connais pas. Là, en ce moment, ben, tu sais ce que tu as. Pour toi, te séparer, si tu vois juste les pertes et tu ne vois pas les gains. Puis les gains, c'est des fois, c'est effectivement de se retrouver, de se permettre des choses qu'on faisait plus, de retrouver la femme en soi, etc. Mais quand on se dit, on se sent coupable, qu'on va briser une famille, on est loin d'être capable de les voir, les côtés positifs qu'on va trouver par après, parce que c'est dans le futur. On n'a pas de boule de cristal pour voir est-ce qu'on va être bien, est-ce qu'on va se retrouver, est-ce que la séparation va nous amener ce qu'on souhaite. On ne le sait pas. Il faut prendre un risque. Il faut se dire qu'il va nous arriver des belles choses aussi, puis qu'il ne faut pas voir juste qu'est-ce qu'on va perdre. Oui, il n'y aura plus l'unité familiale comme on l'a connue. Moi, l'unité familiale est différente maintenant, puis c'est vraiment très bien. Tout le monde s'entend bien. On fait des soupers pour nos enfants ensemble avec mon ex-conjoint, sa nouvelle conjointe, avec mon conjoint. Même cette année, on s'est vus pour Noël. On a fait un échange de cadeaux tous ensemble.
Wow!
Puis mes enfants, ils apprécient vraiment ça parce que...
C'est plus authentique!
Oui, c'est ça. On est authentique. Puis je trouve que c'est important que les gens ils voient qu'une fois séparés, tu peux être ami. Puis je dirais même que des fois, moi, dans mon cas, je trouve que la relation est mieux parce que je me dis... Ça me fait réaliser que, dans le fond, on était des amis et on aurait peut-être dû être simplement des amis. Mais que ça peut rester. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas une relation d'amitié. On a passé 20 ans ensemble. Moi, je ne les oublierai pas ces années-là. Je ne les regretterai pas. Je les ai vécues. Puis maintenant, je vis d'autres choses. Mais c'était une grande part de ce que j'ai vécu. Puis je ne voudrais pas repenser à ça en pensant que ce n'était pas une belle expérience, là.
C'est beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse. Je trouve ça tellement inspirant, ce que tu dis en ce moment. Quel parcours extraordinaire pour vrai. Là, c'est l'élément qui est important dans ton témoignage, c'est le recul. Avec le temps, là, on le voit là, à quel point tu portes un regard positif sur le processus de séparation et de divorce. C'est ça?
J'ai une phrase que je dis souvent. Je pense qu'elle veut tout dire, c'est que je me dis, je n'ai pas réussi mon mariage, mais j'ai réussi mon divorce.
Ben c'est le point de notre balado. On dit tout le temps ça, mais je suis tellement contente que ça vienne de toi, parce que moi, j'ai beau marteler ça à titre d'animatrice, il faut que ça vienne de quelqu'un qui l'a vécu. C'est encore plus authentique, justement, puis ça, c'est beaucoup plus porteur d'espoir, je pense, pour les gens qui nous écoutent, d'entendre ça de la bouche de quelqu'un qui est passé par toutes sortes d'émotions, toute la gamme d'émotions que ça implique, là, une séparation ou un divorce. Donc, vraiment, merci pour ça. Puis toi, de quoi tu es la plus fière personnellement, d'un point de vue personnel, là? C'est quoi ta plus grande réalisation, tu penses, à travers ce parcours-là?
Un, de m'avoir choisi, d'avoir retrouvé tous les autres côtés de ma personne que j'avais perdu, le côté de la femme qui était là, de m'avoir ouvert à d'autres aspects de ma vie que j'avais négligés. Vraiment, là, d'avoir pris une décision qui était difficile, puis de l'avoir assumée, puis d'avoir fait en sorte de bien le vivre et de bien le faire vivre à tout le monde. Je suis vraiment fière de l'avoir réussi, puis il n'y a pas eu personne de blessé.
Et aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, pour qui la rupture est récente et qui doutent qu'un jour ça va mieux aller, qu'est-ce que tu aimerais leur dire?
prenez votre temps, donnez-vous le temps de retrouver vos repères, de vous refaire une vie à soi, puis il va y en avoir du bon qui va s'en venir. Vous allez être bien, vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnaître dans les choses que vous avez perdues, vous allez retrouver un cap dans votre vie. Donc, ça va aller mieux. Il faut passer le début, qui est plus difficile, mais quand on se retrouve, qu'on retombe sur ses pattes, ça va bien et ça va arriver.
Ah, oh, mais quel beau mot de la fin. C'est super touchant. Je te remercie, Joëlle, de nous avoir éclairé aujourd'hui de ta sagesse, pour vrai. Je trouve ça extraordinaire, honnêtement. Très riche comme témoignage, très généreux de ta part également. Donc, merci. Je trouve qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir dans ce que tu nous as livré. Donc, vraiment, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Que de belles rencontres! Alexandra et Joëlle n'ont pas le même parcours de vie, elles n'ont pas le même âge, et pourtant, que de points en commun entre ces deux femmes inspirantes. J'espère qu'elles vous ont aidé à cheminer et à voir tout le beau qui vous attend après. Si vous voulez plus de conseils pour vous adapter à la séparation ou juste pour trouver de l'aide par rapport à votre situation, je vous donne rendez-vous au juridique.gouv.qc.ca. Je suis Vanessa Destinée et je vous dis à la prochaine.
Ce balado vous a été offert par le gouvernement du Québec.